Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
J'avais le regard affamé, l'air égaré du mal aimé.
Frédéric.
Françoise Juarez, plus connue sous le pseudonyme de Françoise Sagan, vous êtes une femme de lettres française née en 1935 à Cajar, dans le Lot. Vous avez 18 ans en 1954, encore mineure, quand sort votre premier roman, Bonjour Tristesse. Ce roman, en abordant explicitement la sexualité féminine avec un style désinvolte et mordant, provoque un véritable scandale. Vous êtes récompensée la même année par le prix des critiques. Bonjour Tristesse, qui devient l'emblème de toute la génération d'après-guerre et qui vous propulse au devant de la scène littéraire. Le 1er juin, François Mauriac écrit la une de Figaro. Ce prix des critiques est décerné à un charmant petit monstre de 18 ans dont le mérite littéraire éclate dès la première page n'est pas discutable.
Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse.
François Sagan, vous êtes l'auteur de 21 romans, 4 nouvelles, 11 pièces de théâtre, co-scénariste de films, réalisatrice, présidente du Festival de Cannes en 1979, envoyée spéciale dans le monde entier pour l'Express ou le magazine Elle. Vous avez écrit des chansons pour Gréco, Montand, Annabelle, Mouloudji, Dalida et pour Johnny. Vous êtes aussi connue pour avoir régulièrement défrayé les chroniques judiciaires, financières.
Oui, enfin, j'ai surtout étiqueté jeux, whisky, cocaïne, Ferrari.
Oui. Revenons à l'essentiel de votre vie, l'écriture et votre amour de la lecture.
Dans l'ordre des souvenirs, l'amour de la littérature a une grande supériorité sur l'amour tout court, l'amour humain. C'est que si l'on ne se rappelle pas forcément où et quand on a rencontré l'autre, si on ne sait pas forcément quel effet il nous fit ce jour-là, et si on a même plutôt tendance souvent à s'extasier de ce que ce soir-là on ne comprit pas tout de suite que l'autre c'était justement lui, la littérature en revanche offre à notre mémoire des coups de foudre autrement fracassants, précis et définitifs. Je sais très bien où j'ai lu, où j'ai découvert les grands livres de ma vie. Et les paysages extérieurs de ma vie alors sont là, inextricablement liés à mes paysages internes, qui sont généralement ceux de l'adolescence. Je n'avais lu de Rimbaud jusque-là, comme tous les écoliers français, que Le Dormeur du Val et les premières strophes du Bateau. Mais ce matin-là, n'ayant presque pas dormi de la nuit à force de lecture, inaugurant ainsi un peu tôt le long cycle de mes nuits blanches, ce matin-là, je m'étais levée en titubant de fatigue dans la maison louée par mes parents à Hendaye pour les vacances. J'avais dû avoir une idée de moi-même ainsi, jeune fille allant lire des poèmes à l'aube sur une plage. Une idée qui convenait à mon imaginaire. Et nul n'ignore combien les imaginaires guident les pas et les attitudes de cet être si malheureux et si triomphal, si perpétuellement humilié et si follement orgueilleux que pouvait l'être quelqu'un de 15 ans à l'époque. Et qu'il peut toujours être aujourd'hui, on ne me fera pas croire le contraire. Bref, à plat ventre sur une serviette éponge, la tête sous la tente et les jambes recroquevillées sur le sable froid, j'ouvris au hasard ce livre blanc sur papier fort, nommé « Illumination ». Je fus foudroyée instantanément.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.
Ah ! Il m'était égal tout à coup que Dieu n'existât plus et que les hommes fussent des êtres humains, ou même que quiconque m'aimât un jour. Les mots se levaient des pages et cognaient à mon toit de toile avec le vent. Ils me retombaient dessus. Les images succédaient aux images, la splendeur à la fureur.
En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Quelqu'un avait écrit cela. Quelqu'un avait eu le génie, le bonheur d'écrire cela. Cela qui était la beauté sur la terre, qui était la preuve par neuf, la démonstration finale de ce que je soupçonnais depuis mon premier livre non illustré, à savoir que la littérature était tout. Qu'elle était tout en soi et que même si quelque aveugle égaré dans les affaires ou les autres beaux-arts l'ignorait encore, moi, du moins à présent, je le savais. Elle était tout. La plus, la pire, la fatale, et il n'y avait rien d'autre à faire, une fois qu'on le savait, rien d'autre que de se colter avec elle et avec les mots, ses esclaves et nos maîtres. Il fallait courir avec elle, se hisser vers elle, et cela à n'importe quelle hauteur, et cela, même après avoir lu ce que je venais de lire, et que je ne pourrais jamais écrire, mais qui m'obligeait, de par sa beauté même, à courir dans le même sens.
Alors, Jean-Louis Bory, nous voici donc à une nouvelle étape du mythe ou de la réalité Sagan, avec ce nouveau roman, La Chamade, que vous avez lu, que vous êtes un des tout premiers à avoir lu. Alors, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je crois que La Chamade me paraît meilleure que les deux derniers Sagan. La littérature de François Sagan était devenue un petit peu grêle, à force de tourner en rond, et je dois dire que cette fois-ci, ce qui fait le prix de ce livre, c'est qu'elle porte sur son monde, son tout petit monde qui se croit le monde, elle porte un regard d'une lucidité qui m'a plu. Parce que François Sagan devient, si vous voulez, tranquillement féroce. Et c'est cette tranquillité féroce, ou cette férocité tranquille, comme vous voulez, qui fait le premier prix de La Chamade, voilà.
Alors vous voulez dire qu'il n'y a pas moyen de dissocier le mythe Sagan de la réalité de son existence quotidienne ?
Non. Voici ce qui se passe. C'est que l'écrivain Sagan a contre lui, contre elle, quelque chose de terrible. C'est qu'elle a du succès. Et vous savez que rien n'échoue comme le succès, ou du moins comme un certain succès. Le succès de François Sagan, et cela dès le début, c'est un succès qui ne relève pas de la critique littéraire, mais qui relève de la critique à gros tirage. Ce n'est pas, elle n'a pas le succès d'un grand écrivain, qu'elle peut être, qu'elle sera peut-être, je n'en sais rien. Elle a un succès de vedette. Et une vedette qui appartient à ce qu'on pourrait appeler, sans doute sans trop de méchanceté, mais je serais encore moins méchant que Sagan dans son propre roman, l'écume de Paris. Quelque chose de très scintillant, de fort léger, qui attire beaucoup les regards parce qu'il fait beaucoup de mousse. Mais on souffle dessus, le temps souffle, et il ne reste plus rien. Et les romans de Sagan, si vous voulez, qui ont toujours été un petit peu minces et fragiles dans une certaine mesure, on pourrait les comparer à des flocons d'écume laissés sur ces plages qu'elle aime tant. Quelque chose d'une petite carcasse aérienne très fragile. On souffle dessus, on se demande ce qui peut rester. Cette image est volontairement injuste parce que je crois, moi, bon, je ne sais pas si ça tiendra, personne ne peut savoir d'abord si dans 50 ans les gens liront et si dans 50 ans Sagan sera encore quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment ça résiste au souffle. C'est que, et c'est surtout très net dans La Chamade, il commence à y avoir une espèce de carcasse qui résiste. Ce n'est pas seulement une chose fragile et aérienne, mais ça tient. On souffle dessus et ça tient. Et c'est là où on peut s'interroger sur ce que représente la littérature Sagan.
Mmh. Ah oui, mais alors on se demande pourquoi le petit monde artificiel de Sagan parvient à toucher un si large et grand public.
Voilà. Pour une double raison. D'abord parce que pour ce très large public, disons le public petit bourgeois, celui qui achète les livres, hélas pour l'instant, qui fait les gros tirages, pour ce public petit bourgeois, les personnages de Sagan, la littérature de Sagan présente une espèce d'aspiration et de rêve qu'ils réalisent pendant quelques jours quand ils vont tous à Saint-Tropez en troupeau ou lorsqu'ils ont un petit peu d'argent, peuvent s'offrir 8 jours à Megève. Cette réalité d'un monde auquel non seulement pas l'argent mais le fric permettent une certaine liberté de mœurs.
Oui, mais alors, on finit par se demander alors si François Sagan ne fait pas, bien malgré elle, le procès de notre civilisation.
Et c'est intéressant, c'est que dans cette civilisation, Sagan, si vous voulez, présente une espèce de passivité qui, d'ailleurs, la rend intéressante, sociologiquement parlante, sinon littérairement parlant. C'est que elle présente cette société bourgeoise qui rêve d'avoir les belles voitures pour partir en week-end dans des auberges luxueuses. C'est le décor souvent de ses personnages, des histoires de Sagan. Et ça, c'est le rêve. Bon, et c'est ce qui explique le succès, si vous voulez. Il y a un côté, bon, ce n'est pas forcément péjoratif ce que je vais dire. Sagan représente pour ses grands lecteurs, ce grand nombre de lecteurs, ce que pouvait représenter le phénomène d'Élie. Vous savez, d'Élie, le roman sentimental. Sagan est une espèce de délit du monde moderne, d'une bourgeoisie décadente, gentiment pourrissante, un petit peu frelatée, qui est la réalité, une certaine réalité sociale de la France actuelle.
Mm-hmm. Oui, mais alors on finit par se demander quel est le rôle joué par Sagan elle-même dans l'univers Sagan.
Une espèce de machine enregistreuse, avec assez de nonchalance, de paresse et de facilité, car elle est merveilleusement douée. C'est ça, c'est une machine enregistreuse. Sagan est au milieu d'une espèce de manège désenchanté. Elle écoute sa petite musique, elle la transcrit. Vous voyez les petits manèges qu'il y a sur les foires? Il y a une espèce de machine avec des petits cartons découpés qu'on appelle une espèce d'orgue, machine à musique, piano mécanique. Voilà. Sagan est là et voit tourner autour d'elle son petit monde, et voilà les principaux chevaux, si vous voulez, qui tournent autour d'elle. Et on trouve ça dans tous ses romans, et encore dans La Chamade. L'homme, enfin l'être dans cette société qu'elle connaît bien, dans son petit monde, très petit monde, exigu petit monde, eh bien l'homme est seul, enfin je dis l'homme, naturellement l'être humain est seul. Alors naturellement, il rêve pour trouver l'autre, de l'amour. Mais l'amour, c'est difficile. Hein, ça prend du temps, ça fatigue, ça s'use vite. Non, c'est vrai. Dans un mois, dans un an, on n'en parle plus. Bon. Alors, on retrouve l'ennui. Cet ennui que Sagan vraiment traîne autour d'elle comme une espèce de croix contre lequel elle lutte. Cet ennui contre lequel on lutte par le divertissement, le plaisir, y compris le plaisir des sens. Le divertissement au sens pascalien du terme, bien sûr. Et quand on est lucide, et c'est là que Sagan intervient, quand on est lucide, car Sagan passe de la solitude à essayer l'amour, rencontre l'ennui, elle s'ennuie à crever, la pauvre chérie. Non, mais elle essaie de s'amuser pour lutter contre cet ennui, et elle voit tout ça. Elle est au centre du manège, et elle voit, elle juge. La Chamade montre à quel point, avec férocité, elle juge, et bien on s'aperçoit, pour peu qu'on est lucide, que tout cela ne compte pas. Ce n'est rien, et on retrouve l'amertume, la tristesse, bonjour tristesse, et la solitude, et on recommence la petite ronde chaque fois, en espérant chaque fois qu'on s'en sortira. Et depuis le début, Sagan tourne autour de cette ronde, et chacun de ses romans ajoute un cheval à la ronde, si vous voulez. C'est comme ça que je vois l'œuvre de Sagan.
Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s'était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s'attaquait à présent à son sommeil. C'était un vent de printemps, le premier. Il sentait les bois, les forêts, la terre. Il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d'essence, et il arrivait, léger, fanfaron, à l'aube, dans sa chambre, pour lui signaler, avant même qu'elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre. Elle referma les yeux, se retourna sur le ventre, chercha de la main à tâtons sa pendule par terre, le visage toujours enfoui dans l'oreiller. Elle avait dû l'oublier, elle oubliait toujours tout. Elle se leva avec précaution, glissa la tête par la fenêtre. Il faisait sombre, les fenêtres en face étaient fermées. Ce vent n'avait aucun sens commun de circuler à cette heure-là. Elle se recoucha, rabattut ses draps énergiquement autour d'elle et fit quelque temps semblant de dormir, en vain. Elle passa dans la chambre de Charles. Il dormait, les fenêtres fermées, la lampe de chevet allumée, et nul vent ne le dérangeait jamais. Elle s'assit au pied du lit et le regarda. Charles avait 50 ans, de beaux traits un peu mous et l'air malheureux quand il dormait. Ce matin-là, il avait l'air encore plus triste que d'habitude. Il avait des affaires immobilières, beaucoup d'argent, et des rapports humains plutôt difficiles dus à un mélange de politesse et de timidité qui le rendait parfois glacial. Il y avait 2 ans qu'ils vivaient ensemble, si l'on pouvait appeler vivre ensemble le fait d'habiter le même appartement, de voir les mêmes gens et de partager parfois le même lit. Il se retourna vers le mur et gémit un peu. Elle pensa une fois de plus qu'elle devait le rendre malheureux. Et tout aussitôt qu'il l'eût été de toute façon avec une femme de 20 ans plus jeune que lui et frappée d'indépendance. Elle prit une cigarette sur la table de nuit, l'alluma sans bruit et reprit sa contemplation. Les cheveux de Charles devenaient gris en haut, les veines saillaient sur les mains qu'il avait très belles, la bouche se décolorait un peu. Elle eut un mouvement de tendresse vers lui. Comment pouvait-on être bon, intelligent et si malheureux ? Et elle ne pouvait rien pour lui. On ne peut consoler personne d'être né et d'avoir à mourir. Elle se mit à tousser. Oui, elle avait tort de fumer le matin à jeun. Il ne fallait pas fumer à jeun, ni boire d'alcool d'ailleurs, ni conduire vite, ni faire l'amour, ni fatiguer son cœur, ni dépenser son argent, ni rien. Elle bâilla. Elle allait prendre la voiture et suivre le vent de printemps assez loin dans la campagne. Elle ne travaillerait pas plus aujourd'hui que les autres jours. Elle en avait, grâce à Charles, perdu l'habitude.
Qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, princesse, amie qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse.
Juliette Gréco, il y a combien de temps vous êtes amie de Françoise Sagan ?
Très longtemps. Il y a, je ne sais pas, plus de 10 ans certainement.
Ça veut dire quoi être amie de Françoise Sagan ?
Ben, c'est très commode d'être une amie de Françoise, c'est très confortable. Françoise est quelqu'un de très sûr. Françoise est quelqu'un de très bon, de très tendre, de très honnête. C'est très agréable d'être son amie.
Est-ce que l'amitié que vous avez pour Françoise Sagan est une amitié intellectuelle ? Parlez-vous de son travail ? Parle-t-elle de votre travail ?
C'est quelqu'un de très intelligent, qui vous parle beaucoup plus de vous que d'elle-même. Il faut vraiment la torturer pour qu'elle parle d'elle.
On dit parfois de Françoise Sagan qu'elle est un peu difficile dans son existence quotidienne.
Difficile ?
Pas toujours exacte.
Personnellement, je n'ai pas à m'en plaindre. C'est une personne extrêmement polie et courtoise.
Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie ?
Tout. Tous les gens l'intéressent. Les animaux l'intéressent. Les inquiétudes des gens l'intéressent. C'est quelqu'un qui cherche toujours à vous rassurer, à vous calmer, à vous apporter le rire ou le sourire, ou à sécher vos larmes, si besoin est.
On parle beaucoup du clan Sagan.
Du clan Sagan? Je ne sais pas, je pense que peut-être il y a un clan, peut-être il n'y en a pas. Je sais que nous nous retrouvons presque toujours les mêmes, les uns avec les autres, parce que nous nous aimons. Je pense que c'est ça peut-être que vous voulez dire.
Après le clan Sagan, on parle aussi du climat Sagan.
Ah, ben, le climat, il est ce qu'on fait les uns les autres, tout dépend de nos humeurs.
Vous aimez aussi les boîtes de nuit, le whisky?
Oh oui, j'aime bien boire, oui, j'aime bien rire, j'aime surtout rire.
Et vous aimez l'ennui tel qu'il est parfois dans la littérature de Sagan?
Mais l'ennui existe, ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les gens qui s'ingénient à le faire.
Est-ce que Françoise Sagan s'ennuie?
Sûrement pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'ennuie jamais. Si l'on ne m'ennuie pas, je ne m'ennuie pas.
Et l'expression « mythe Sagan », ça vous fait sursauter ?
Je ne sais pas ce que c'est, le mythe Sagan. C'est quoi ? Pour moi, Sagan, c'est un être humain, et c'est très rare.
La jeune fille et la grandeur. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir de limite à l'indifférence générale sur certains sujets, et surtout à la mienne. Je ne pensais pas qu'un simple récit pourrait m'arracher à ce confort douteux que donne le sentiment de l'impuissance, ni à cette lassitude horrifiée que l'on éprouve à signer une 1000e pétition. Seulement, on est venu me voir et on m'a raconté avec preuve l'histoire de Jamila Boubacha, histoire trop insupportable pour supporter qu'elle se termine demain, 17 juin 1960 à Alger, par la condamnation à mort d'une jeune fille de 22 ans, ou de ce qui fut une jeune fille de 22 ans. Car le 10 février cette année, Djamila Boupacha fut arrêtée par des gardes mobiles dans un faubourg d'Alger. Elle fut incarcérée légalement le 15 mars. Entre ces deux dates, il se passa plus d'un mois. Mois écoulé à El Bihar, centre de tri. Après avoir été torturée et empalée sur une bouteille, elle avoua avoir déposé une bombe dans un café. Bombe qui fut désamorcée à temps d'ailleurs, ce qui justifie son procès de vendredi. Malheureusement, ayant l'imagination stimulée par certaines électrodes et certaines baignoires, elle avoua en même temps 10 autres attentats imaginaires. Durant ce séjour, elle eut le réconfort d'être confrontée, nue et sanglante, avec son père âgé de 70 ans et dans le même état. Il y a des témoins à cette histoire, des témoins qui se présenteront au procès pour séquestration et torture qu'a intenté l'avocate de Djamila Boupacha. Il y a des médecins du CRU qui ont reconnu les effets physiques des tortures sans oser en nommer les causes. Il y aura, si on les laisse venir de France et l'examiner, des gynécologues impartiaux qui diront ce que peut donner l'empalement d'une fille vierge sur une bouteille. Le seul risque est qu'ils viennent trop tard. Grâce à un droit compliqué et savant, Djamila Boupacha peut être exécutée pour ses aveux, aveux que, dans 3 mois, on reconnaîtra comme nuls, puisqu'arrachés par la torture. Voilà l'histoire. J'y crois. Malgré tous mes efforts, j'ai été obligé d'y croire. J'en parle parce que j'en ai honte, et que je ne comprends pas qu'un homme intelligent qui a le sens de la grandeur et le pouvoir n'ait encore rien fait. Qu'on ne me dise pas qu'il a d'autres chats à fouetter. Le petit capitaine qui piétina Djamila répondit à la protestation de son père. De Gaulle a interdit la torture par « De Gaulle n'a rien à faire ici, et je suis poli. Allons du moins, on ne torture pas en son nom. » Pour le souci de notre grandeur, il nous reste le pont de Tancarville. Il fait l'orgueil de cette Normandie herbeuse où j'habite, riche province de notre tendre France. Seulement, c'est insuffisant. Nous pouvons poser des questions si nous pouvons exiger des réponses. En 1944, on demandait à André Malraux « Comment définissez-vous notre époque ?» Il répondit « Le temps du mensonge. » Il n'est pas possible que ce soit vrai. Je n'imagine pas les fanfares de la grandeur puissent couvrir les hurlements d'une jeune fille.
C'est un sujet un peu trop à la mode, mais néanmoins fascinant, que celui de la dépression. J'ai commencé ce roman essai ainsi par une description de cet état. J'ai rencontré 15 cas similaires depuis, et je ne m'en suis tiré moi-même que grâce à cette bizarre manie d'aligner des mots les uns après les autres. Des mots qui recommençaient tout à coup à jaillir en fleurs à mes yeux et en écho dans ma tête. Et chaque fois que je la rencontrais chez quelqu'un, cette dépression, cette catastrophe, car il n'y a pas à plaisanter là-dessus ni à parler d'oisiveté ou de laisser aller. Chaque fois, cette maladie m'accablait de tendresse. D'ailleurs, en y pensant, pourquoi écrirait-on, sinon pour expliquer aux autres qu'ils peuvent y échapper à cette maladie, ou en tout cas s'en remettre. La raison d'être absurde, naïve de tout texte, que ce soit un roman ou un essai ou même une thèse, c'est toujours cette main tendue, ce désir effréné de prouver bêtement qu'il y a quelque chose à prouver. C'est cette façon comique de vouloir démontrer qu'il y a des forces, des courants de force, des courants de faiblesse, mais que dans la mesure où tout cela est formulable, c'est donc relativement inoffensif. Quant aux poètes, mes préférés, ceux qui font joujou avec leur mort, leur sens des mots et leur santé morale, quant aux poètes, ils prennent peut-être plus de risques que nous, les romanciers. Il faut un joli toupet pour écrire « La terre est bleue comme une orange ». Et il faut une gigantesque audace pour écrire « Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer ». Parce que c'est jouer avec la seule chose qui nous appartienne à nous, les fonctionnaires de la plume, les mots, leur sens. Et c'est quasiment abandonner ses armes à l'entrée de la guerre ou décider de les tenir à l'envers en attendant les yeux déjà éblouis, demi-éteint, qu'elle vous saute au visage.
François Sagan, 1984, vous écriviez une magnifique lettre d'amour à Jean-Paul Sartre.
Vous avez écrit les livres les plus intelligents et les plus honnêtes de votre génération. Vous avez même écrit le livre le plus éclatant de talent de la littérature française, Les mots. Dans le même temps, vous vous êtes toujours jeté, tête baissée, au secours des faibles et des humiliés. Vous avez cru en des gens, des causes, des généralités. Vous vous êtes trompé parfois, ça, comme tout le monde. Mais, et là, contrairement à tout le monde, vous l'avez reconnu chaque fois. Vous avez refusé obstinément tous les lauriers moraux et tous les revenus matériels de votre gloire. Vous avez refusé le pourtant prétendu honorable Nobel, alors que vous manquiez de tout. Vous avez été plastiqué 3 fois lors de la guerre d'Algérie, jeté à la rue sans même sourciller. Vous avez imposé au directeur de théâtre des femmes qui vous plaisaient, pour des rôles qui n'étaient pas forcément les leurs, prouvant ainsi avec faste que pour vous, l'amour pouvait être au contraire le deuil éclatant de la gloire. Bref, vous avez aimé, écrit, partagé, donné tout ce que vous aviez à donner et qui était l'important, en même temps que vous refusiez tout ce que l'on vous offrait et qui était l'importance. Vous avez été un homme autant qu'un écrivain, vous n'avez jamais prétendu que le talent du second justifiait les faiblesses du premier, ni que le bonheur de créer seul autorisait à mépriser ou à négliger ses proches, ni les autres, tous les autres. Vous n'avez même pas soutenu que se tromper avec talent et bonne foi légitimait l'erreur. En fait, vous ne vous êtes pas réfugié derrière cette fragilité fameuse de l'écrivain, cette arme à double tranchant qu'est son talent. Cette arme, loin de vous y empaler avec délices et clameurs comme beaucoup, vous avez prétendu qu'elle vous était légère à la main, qu'elle était efficace, qu'elle était agile, que vous l'aimiez. Et vous vous en êtes servi. Vous l'avez mise à la disposition des victimes, des vraies à vos yeux, celles qui ne savent ni écrire, ni s'expliquer, ni se battre, ni même parfois se plaindre. Ce siècle s'est avéré fou, inhumain et pourri. Vous étiez, être, resté, intelligent, tendre et incorruptible. Que grâce vous en soit rendue.
Françoise Sagan, merci d'accepter notre invitation à propos de votre nouveau livre « Avec mon meilleur souvenir » et de jouer le jeu de l'interview. Vous viviez bien quand même quand vous étiez jeune grâce à tout ça, grâce à ce mythe qu'on vous avait construit.
Oui, oui. Très bien, oui, très très agréablement, oui.
Vous jouiez le jeu, donc?
Je jouais le jeu, oui, je jouais le jeu de... J'avais un métier qui me passionnait, qui me passionne toujours, puis j'avais en plus des moyens de mener la vie qui me plaisait, la vie rêvée, enfin, l'un et l'autre, ça faisait une vie délicieuse.
Bon, François Sagan, profession, vous dites quoi?
Bas bleu.
Alors, à propos du livre, c'est quoi? Ce sont des mémoires, ce sont des souvenirs? Moi, je dirais que c'est du Sagan.
Oui, enfin, moi, je ne peux pas dire ça.
Mais moi, je le dis.
Ah, bah, alors, moi aussi.
Alors, dans ce mythe Sagan, savamment entretenu par la presse, il y a le jeu.
Oui.
Alors, le jeu, ça représente exactement quoi pour vous? C'est un pari?
Bon, c'est la chance, c'est un flirt avec la chance, oui.
Oui, mais la chance ne se définit pas comme ça.
Oui, enfin, définir un joueur, c'est absolument impossible. Vous êtes joueur et on comprend très bien ce que c'est que le jeu. On aime ça, on n'est pas joueur et on a horreur de ça. Oui, bref, c'est comme d'être rouquin ou d'être intelligent ou rancunier. N'être joueur, c'est n'être joueur. Une chose, comme dit-on, innée, qu'on ne peut absolument pas maîtriser, enfin, qu'on peut peut-être maîtriser, enfin, qu'on ne peut pas acquérir, en tout cas.
Dire que c'est une drogue, c'est un peu banal.
Oui, oui, on peut dire ce qu'on veut. C'est une drogue, c'est un addictif, c'est un gouffre, c'est un vice, c'est une vertu, enfin c'est tout ce qu'on veut.
Bon, quand vous dites inné, comment vous expliquez ça sur un plan biologique?
Oh, je n'ai aucune notion en biologie assez sérieuse pour répondre.
Bon, vous continuez à jouer?
Oui.
De plus en plus?
Ah non, 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 pas de plus en plus. Je joue quand je suis près d'un casino, ce que j'évite en général. Oui, enfin bon, enfin, en tout cas on joue pour défier la chance, pour remettre en question son équilibre financier, sa vie, son destin, sa manière de vivre, enfin, je ne sais pas, jouer, enfin moi je ne vais pas jouer avec des amis en tout cas, hein, ce ne serait pas agréable, hein, ni pour eux, ni pour moi, non, je vais plutôt jouer avec, contre des, je sais pas, des inconnus, enfin ce qui est extrêmement dangereux, par conséquent je joue au casino contre contre la chance pure.
Vous jouez au casino pour établir un équilibre financier.
Non. Pour établir, enfin, en tout cas, je sais pas, pour le provoquer.
François Sagan, n'allez pas me dire que vous ne jouez pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas vrai.
Bon, tous les joueurs jouent pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous croyez?
Et quand vous en perdez, ça fait quoi?
Oh, il y a des fois où ça ne m'arrange pas du tout. Non, mais il y a des périodes où on perd tout le temps et il faut s'arrêter, puis il y a des périodes où on gagne, il faut insister, voilà.
Alors, dans le mythe François Sagan, puisque mythe il y a donc le jeu et il y a aussi la vitesse. Hein. C'est un des chapitres dans « Avec mon meilleur souvenir ». Alors la vitesse, je crois que vous l'avez éprouvée dans votre chair, comme on dit.
Ah oui, je vois, vous voulez parler de mon accident de voiture. Bien oui, j'ai eu un accident de voiture dans ma vie, enfin, un seul, enfin je touche du bois, il y a très longtemps. Hein. Et en plus, oui, c'était un jour où j'allais pas vite. Oui, un jour où je roulais à 60 à l'heure.
Ah, c'est pas de chance alors?
Non, c'est pas de chance, c'est toujours comme ça.
Vous avez de la chance au jeu et pas de chance en voiture?
Ah bah si, étant donné la manière générale dont je veux dire, un accident, non, c'est pas beaucoup. Non, c'était une Aston Martin, décapotable, qui était un peu trop lourde pour moi, alors il y a eu une espèce de gravier, je sais pas, je me suis trouvé dans le fossé.
Qu'est-ce qui vous grise dans la vitesse? La vitesse est grisante en elle-même?
Oui, c'est toujours pareil, c'est comme le jeu. Si on n'aime pas aller vite, on ne peut pas comprendre le plaisir de la vitesse. Vous savez, le vent qui siffle, l'impression d'aller justement au ralenti, c'est dans l'impression de la vitesse, les arbres, le vent, tout ça, je ne sais pas. C'est une impression tout à fait particulière, c'est un goût, encore une fois.
Alors, Sagan bas bleu ou écrivain, Sagan qui joue, Sagan qui conduit vite, c'est toujours un peu la même chose.
Oui.
Vous avez envie de vous prouver quoi? Que vous existez?
Oui, j'ai envie de prouver quoi que ce soit. Non, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de pas mal de choses. Il y a des gens qui ont des vies d'excès et j'en fais partie.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les tempos de la vitesse ne sont pas ceux de la musique. Dans une symphonie, ce n'est pas l'allegro, le vivace ou le furioso qui correspond aux 200 à l'heure, mais l'andante. Mouvement lent, majestueux, sorte de plage où l'on parvient au-dessus d'une certaine vitesse et où la voiture ne se débat plus, n'accélère plus, et où, tout au contraire, elle se laisse aller en même temps que le corps à une sorte de vertige éveillé, attentif, et que l'on a coutume de nommer grisant. Cela se passe de nuit sur une route perdue, et parfois le jour dans des régions désertes. Cela se passe à des moments où les expressions « interdiction » port obligatoire, assurance sociale, hôpital, mort, ne veulent plus rien dire. Annulés par un mot simple, utilisé par les hommes à toutes les époques, à propos d'un bolide argenté ou d'un cheval alezan, le mot vitesse. Cette vitesse où quelque chose en soi dépasse quelque chose d'extérieur à soi. Cet instant où les violences incontrôlées s'échappent d'un engin ou d'un animal, redevenu sauvage et que l'intelligence et la sensibilité l'adressent, la sensualité aussi contrôle ta peine, insuffisamment en tout cas pour ne pas en faire un plaisir, insuffisamment pour ne pas lui laisser la possibilité d'être un plaisir mortel. Odieuse époque que la nôtre, celle où le risque, l'imprévu, l'irraisonnable sont perpétuellement rejetés, confrontés à des chiffres, des déficits ou des calculs. Époque misérable où l'on interdit aux gens de se tuer, non point pour la valeur incalculable de leur âme, mais pour le prix d'ores et déjà calculé de la carcasse. Quand on va vite, il y a un moment où tout se met à flotter dans cette pirogue de fer où l'on atteint le haut de la lame, le haut de la vague, et où l'on espère retomber du bon côté grâce au courant, plus que grâce à son adresse. Le goût de la vitesse n'a rien à voir avec le sport. De même qu'elle rejoint le jeu, le hasard, la vitesse rejoint le bonheur de vivre et, par conséquent, le confus espoir de mourir qui traîne toujours dans le dit bonheur de vivre. C'est là tout ce que je crois vrai, finalement. La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur.
Alors on ne bouge pas pendant le jingle. Magnéto Serge. Alors, François Sagan, vous venez souvent au bain.
Oh oui, de temps en temps, comme ça pour dîner surtout.
Ouais, ça fait partie de votre légende, les boîtes de nuit?
Oui, enfin un petit peu moins depuis, enfin, je sais pas, depuis 10 ans.
Ouais. Alors, c'est quoi votre hit parade personnel des boîtes de nuit?
Ah, qui a le plus compté, enfin depuis maintenant?
Non, non, depuis tout le temps, depuis 54.
Oh, le New Jimmy's, de Régine, oui, où j'ai passé toutes mes nuits pendant 10 ans.
Ouais, d'accord, c'est le numéro 1 au top 50. Alors, vous vivez comment maintenant? C'est vrai que vous écrivez seulement à partir de minuit?
Non, j'écris la nuit parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde chez moi. C'est un peu la gare Saint-Lazare. Alors, oui, bah, j'écris la nuit de minuit à 3 heures. Enfin, si ça marche, j'écris jusqu'à 4 heures. Puis si ça marche pas, j'écris jusqu'à minuit et demi.
Vous êtes une octambule, finalement?
Depuis toujours.
Que ce soit pour sortir dans les boîtes ou que ce soit pour...
C'est une question d'équilibre physiologique. Oui, un équilibre circadien, je crois, c'est ça qu'on dit. Enfin, tous les noctambules savent ça.
Bon, alors finalement, aujourd'hui, il y a deux stars, deux femmes écrivains stars en France. Il y a Duras et vous. Vous et Duras. Vous avez des carrières qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que vous avez eu du succès tout de suite et elle en a eu beaucoup plus tard.
Oui, trop tard, parce que dès le début, elle était formidable.
Mais si c'était à refaire, vous pensez à quoi, vous?
Ah ben moi je pense qu'il vaut mieux avoir du succès très tôt, hein, parce que ça vous débarrasse de l'idée du succès.
Ouais, mais après, il faut passer votre vie à être à la hauteur aussi.
On n'est jamais à la hauteur de rien, hein. On est toujours...
Ouais, c'est pas plus dur.
Bah, non, je vous dis, le bon côté du succès, c'est que ça vous débarrasse de l'ambition de l'avoir.
Alors, Jean-Paul Sartre, vous l'avez beaucoup vu dans ces dernières années?
Oui, je l'ai beaucoup vu dans sa dernière année. J'ai pas de chance, parce que pendant 25 ans, je l'ai beaucoup admiré. Je l'ai vu à un moment, puis un petit peu, puis pendant... Enfin, comme ça, de loin. Et puis, on s'est vu de manière personnelle, un peu poussé pendant un an, puis il est mort. Alors, j'ai eu l'impression de l'avoir découvert, puis d'avoir été abandonné aussitôt.
Ouais, il a dit, Sagan, ça finira par tenir le coup.
Oui, c'est bien, c'est très flatteur. Ça, dans sa bouche, c'est flatteur, oui.
Vous allez entrer à l'Académie française, alors?
Non.
Pourquoi non?
Non, parce que... On m'en a vaguement parlé, on me l'a vaguement proposé, mais j'ai une manie de l'indépendance qui touche à la folie. Alors non, je trouve ça extrêmement aimable, je ne peux pas.
Vous pouvez pas?
Non.
Là, qui va y aller alors?
Il y a plein de gens qui seront ravis d'y aller.
Vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir laissé un peu aller les choses et de les avoir reprises là, au niveau des livres?
Ah non. Non, j'ai toujours pensé que c'était le plus difficile à faire et le plus passionnant. Il y avait peut-être dû laisser aller, mais c'était involontaire.
Bah, c'est ce que les lecteurs ont senti, qu'il y avait une reprise en main, que ça prenait une nouvelle dimension.
Bah, peut-être que là, il y avait un sujet plus grave, je ne sais pas, c'était pendant la guerre, ça donne toujours un côté plus sérieux. Non, mais c'était un choix, j'avais envie de parler de cette époque, et comme on parlait toujours de mon petit monde doré, des petits trucs futiles, etc. J'ai refusé pendant 25 ans de me plier au diktat de la critique. Je me dis, à force de ne pas vouloir faire ce qu'on me dit de faire, je finis par être obligé, enfin...
Ouais, vous faites des livres de plus en plus solides, mais vous avez toujours autant de problèmes. De faits divers dans votre vie, ça vous gêne le côté paparazzi de la célébrité dont vous avez été assez victime?
Il y en a eu pas mal, oui, toute ma vie, enfin, en ce moment, nous avons les mêmes, non? Mais moi je suis plus blasé que vous parce que les histoires de drogue, j'ai eu ça, quoi, en 81, 86, puis là, maintenant... Bon, tout ça, c'est un peu bête dans la mesure où... Si, une question par rapport à moi, je fais ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Enfin, c'est dans la constitution des droits de l'homme. Un individu fait ce qu'il veut du moment que sa liberté n'entrave pas ses autres trucs, etc. etc. Enfin. Bon, mais si c'est au point de vue des exemples, là, bon, évidemment, je trouve ça très dangereux. Parce que les gens qui m'écrivent, là, qui aiment me lire, bon, il y en a quelques-uns, des gens jeunes, ils peuvent s'imaginer qu'on peut écrire grâce à la cocaïne.
Ouais, vous pensez que c'est un mauvais exemple? Là, on se dit, si Sagan écrit des bons livres, c'est finalement parce qu'elle se drogue.
Oui, non, mais donc c'est une très mauvaise idée d'en parler.
Mais pourquoi la police a le droit de violer le secret de l'instruction?
Faut demander ça à la police. Je pense pas qu'elle en ait le droit.
Ouais, mais vous pensez que c'est pour des raisons politiques que votre nom a été divulgué dans cette affaire?
Je ne pense pas à des choses aussi sérieuses. Mais le cas échéant, vu la somme d'embêtement que j'ai à chaque fois avant les élections. Puis alors, depuis que j'ai fait savoir mes opinions politiques, oui, je pense qu'il y a un rapport, je crois.
Bon, alors finalement, en France, vous avez des tas de problèmes, alors qu'à l'étranger, vous êtes en pleine période de reconnaissance.
Oui, mais ça, c'est normal. Nul n'est prophète en son pays. Oui, enfin, à l'étranger, j'ai droit à tous les honneurs, c'est vrai. Je suis invité à l'Union des écrivains soviétiques parce que, oui, les petits-enfants russes apprennent le français dans mes livres. C'est charmant. Oui, je suis invité dans les universités pour faire des conférences. Conférences, pas trop mon... Enfin, oui, à l'étranger, c'est assez flambant, ma réputation.
En France aussi?
En France aussi, les gens ne sont pas complètement crédules, je crois. Enfin...
Alors, Françoise, en 90, vous avez écrit un article, coup de cœur pour les infirmières.
Ah non, Thierry, c'était en 91, ça.
Autant pour moi.
Enfin, il me semble.
91.
J'ai rencontré ma première infirmière à l'âge de 8 ans, ou à peu près. C'était un après-midi de juillet. J'ignorais que mon frère avait trouvé dans le grenier deux sabres de cavalerie et se livrait avec un petit copain à une reconstitution historique de la bataille de Reichshofen dans le jardin. C'est ainsi qu'au passage, j'ai reçu un grand coup de sabre. Ils avaient laissé le fourreau, ce qui m'évita d'être décapité, mais pas d'avoir l'arcade sourcilière ouverte. C'est à travers un brouillard rouge, et pendant que ma mère s'évanouissait, que j'ai vu le visage de ma première infirmière. C'est-à-dire cette expression à la fois compatissante, attentive, compétente, compréhensive, que sais-je, que j'ai retrouvée toute ma vie au cours de 1000 péripéties. Et il n'y a pas encore tellement longtemps, il y a 10 mois, où je me fis remettre un fémur neuf, ayant cassé le vieux, en dansant toute seule sur un air de Tina Turner. Bon, là, ma culpabilité était plus grande que la première fois. J'ai calculé que j'avais passé à l'hôpital, sous l'œil de diverses infirmières, plus de 14 mois. Mais entre-temps, que ce soit pour des accidents ridicules, pour des accidents plus sérieux, des opérations inattendues, pour des jambes cassées, des bras, des têtes fendues, pour un accouchement, pour divers remue-ménages auxquels j'ai soumis mon pauvre corps depuis ma naissance, chaque fois, j'ai retrouvé partout ce regard, cette compassion. Que ce soit dans des cliniques de luxe ou des dispensaires de campagne, dans des hôpitaux de province ou dans des établissements spécialisés, il y a toujours eu quelqu'un pour se pencher sur moi, pour me rassurer, me réconforter et me consoler si besoin était. Toujours, je l'assure, toujours, et l'idée que cette bienveillance, cette attention, cet épuisement aussi maintenant, parce qu'elles ne sont plus assez nombreuses. L'idée donc que ces femmes qui nous soutiennent, qui nous aident dans ces événements capitaux, pendant lesquels tout ministre, tout chef d'État, n'importe qui, est à leur merci, et ne peut même pas leur dire merci. L'idée que tout cela est oublié aussitôt passé, nié et rejeté, cette idée me dégoûte profondément. Ces femmes à qui on se confie soi-même, au pire moment de notre vie, et à qui l'on confie aussi les êtres que l'on aime le plus, ces femmes à qui l'on demande de nous aider à vivre et d'aider parfois d'autres à mourir, ceux que la vie abandonne, ceux que la vie nous prend. L'idée qu'on les paye mal, qu'on les exploite, me paraît épouvantable. D'abord parce qu'on ne les paiera jamais assez, pour commencer. Ce sera toujours pas assez. Et pour qu'elles-mêmes en arrivent à le dire, c'est vraiment rien. Étrange époque. C'est une étrange époque, quand même, que la nôtre. Où ceux qui apprennent aux enfants à vivre, à découvrir la vie, les professeurs, et celles qui nous aident à y survivre, parfois, et parfois à la quitter, les infirmières, sont oubliées et maltraitées. Plus qu'étrange, d'ailleurs, c'est révoltant.
Au printemps 2003, je proposais à Françoise Sagan une interview pour les 50 ans de l'Express. Ce sera sa dernière. Une fois encore, elle m'expliquait au téléphone qu'elle était trop fatiguée, qu'il valait mieux essayer un autre jour. M'étant fait décrire par un libraire son manoir situé sur la route de Pont-l'Évêque, je la rappelais en lui précisant que je me trouvais cette fois devant chez elle et j'ajoutais que si l'on ne se voyait pas ce jour-là, ce serait sans doute jamais, compte tenu de l'offensive américaine en cours contre le régime de Saddam Hussein qui allait m'accaparer.
Oh, vous vous intéressez à moi alors qu'il y a la guerre en Irak, mais je suis très flattée. Donc, je vais vous ouvrir.
J'aperçus alors une petite femme blonde aux cheveux courts, assise dans un fauteuil roulant sur le seuil de sa porte. Je reconnus immédiatement son regard espiègle, identique à celui des photos que j'avais vues d'elle alors que ses premiers romans faisaient scandale dans la France de Coty. Providence des journalistes, la chance avait pour moi ce jour-là le visage de Sagan qui me souriait. Après m'avoir expliqué qu'elle se méfiait de ma corporation car elle avait connu trop de paparazzi et ne fréquentait que quelques très rares amis journalistes ou critiques littéraires, elle commença à égrener ses souvenirs de reporter pour l'Express alors qu'elle n'avait que 25 ans et fut envoyée à Cuba.
Oh, j'étais un peu fofolle à l'époque. Je pensais surtout à danser, à me baigner, bref, à faire la fête.
N'empêche, de la grande île de la Caraïbe, la jeune Sagan rapportera un reportage visionnaire, révélant les failles et les dérives futures de la révolution castriste. Bientôt détendue, gaie, pétillante, elle allait à mon grand bonheur se prêter, une quarantaine d'années plus tard,
à un long et amical entretien à bâton rompu. En voici quelques extraits. Pour vous, François Sagan, qu'est-ce qu'une vie réussie ?
En ce qui me concerne, je ne dirais pas que j'ai réussi ma vie. Mais j'ai réussi à faire ce qui me plaisait. Vivre en écrivant. Évidemment, je n'ai pas réussi à écrire un livre du niveau de « À la recherche du temps perdu », mais j'ai quand même piqué mon nom Sagan à Proust.
N'empêche qu'à l'instar de Proust, vous avez connu de votre vivant une certaine gloire littéraire.
C'est vrai. Et grâce à la télévision, qui n'existait pas à son époque, j'ai même été peut-être encore plus connue de mes contemporains qu'il n'a pu l'être. Reste que la notoriété n'est pas pour moi l'essentiel. Ce qui m'importe, c'est d'être crue. Ainsi, quand je parle à la télévision dans le cadre d'une émission littéraire, ce qui m'arrive heureusement rarement, je dis toujours ce que je pense et je sais que les gens me croient. C'est très agréable comme sensation.
Vous n'aimez pas les gens superficiels et snobs comme le sont certains personnages de vos romans ?
Non. J'aime l'insouciance, mais cela ne signifie ni superficialité ni futilité.
Le bonheur est-il simple ?
Oui. En ce sens qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Déclarer que la santé, c'est le plus important, ça fait un peu idiot, mais c'est vrai. Ce qui compte surtout, c'est d'être d'accord dans sa vie, dans la vie.
On dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas de regrets. Et pas tellement de remords non plus, d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir eu une chance folle dans ma vie. J'ai celle d'aimer écrire, de pouvoir écrire. J'ai des facilités d'écriture, ce qui tombe bien, car je suis paresseuse. Et quand j'ai un projet qui trotte dans ma tête, je peux écrire 12 heures de suite. Et puis quand c'est fini, je suis triste, je me sens orpheline. Mais je ne peux écrire que lorsque je suis heureuse, bien dans ma peau.
Bonjour Tristesse, c'est un roman qui a beaucoup choqué à l'époque.
Mais en fait, j'étais très surprise du scandale que ce livre a suscité. Pour les trois quarts des gens, le scandale de ce roman, c'était qu'une jeune femme puisse coucher avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier. Mais pour moi, le scandale dans cette histoire, c'était qu'un personnage puisse amener par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer. Pour nombre de lecteurs, ce n'était pas cela qui était le plus choquant. Car dans tous les livres de l'époque, la règle était qu'une fille ne pouvait coucher avec un garçon sans se retrouver automatiquement enceinte. Mais c'était d'une bêtise noire. Lorsque j'étais encore à l'école, j'ai connu une fille qui s'est suicidée parce qu'elle attendait un enfant. Une autre, enceinte, elle aussi, s'est crue obligée de se marier avec un crétin qui a gâché toute sa vie.
Pourriez-vous dire que vous vous êtes bien amusé sur cette planète ?
Oh oui, oui, beaucoup. Et puis il y a eu des moments où je m'y suis vraiment plu. 7 ou 8 moments où j'ai brusquement compris pourquoi j'étais là, ce que je faisais là. Bien sûr, j'ai souvent été heureuse, mais je parle de ces moments rares où il y avait une adéquation totale entre cette terre et moi. Cette impression, cela ne dure pas longtemps, un quart d'heure peut-être. Je sais que ces précieux moments ont été là. Je les revois confusément. J'avais 20 ans, 40 ans ou 53 ans. Je me trouvais sous un arbre, un peu plié.
François Sagan, merci. En septembre 2004, ici, dans votre manoir d'Ecmoville, dans le Calvados, vous vous éteigniez. Malicieuse et fidèle à votre élégance, vous aviez, 6 ans auparavant, rédigé votre propre épitaphe.
Sagan fait son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une œuvre et une vie également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Même audio, une mémoire sonore.